Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je suis pas très à l'aise avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau alors que mon placard est plein, ou bien que je peux me faire prêter une tenue par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe, on peut s'échanger des trucs, donner une seconde vie. On peut pas continuer comme ça.
Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à H&M. Bonne écoute.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est pas vrai tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité à ce micro une femme qui a opéré une véritable mutation intérieure. Ancienne journaliste dans des magazines prestigieux tels que Vogue ou encore Aime le Monde, elle est aussi créatrice d'un blog sur le lifestyle qui n'a plus rien à prouver. Après des années en guerre contre son corps, des années à se juger et à se comparer aux autres, Lily Barbery-Coulon a trouvé la voie de la réconciliation grâce au yoga. Nous allons voir si cette paix intérieure est aussi passée par le vêtement. Bonjour Lily.
Bonjour.
Je dois t'appeler Lily ou Lisa ?
Tu peux m'appeler comme tu veux. Lily, c'est le surnom que je me suis trouvé il y a un peu plus de 20 ans. Mais mon prénom de naissance, c'est Lisa. Après, ça fait tellement longtemps que tout le monde m'appelle Lily que c'est un peu plus original que les gens m'appellent Lisa. C'est mes amis les plus anciens, mes copines de maternelle qui m'appellent Lisa.
Oui, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui comprendront pourquoi je t'ai appelée Lisa. C'était en référence à un de tes derniers articles dans ton blog. LilyBarbery.com, c'est
ça ? Exactement. Sur ce blog, j'ai partagé il y a peu de temps une réflexion que j'ai eue au sujet de notre lien à notre enfant intérieur. Et j'ai pris conscience à travers un stage que j'ai fait récemment que je m'étais pas mal coupée la petite fille que j'étais. Et c'est marrant parce qu'au moment de la publication du livre qui est sorti début septembre, j'ai pris conscience que peut-être cette rupture avec mon prénom de naissance était peut-être en lien avec une rupture avec une partie de moi qui avait peut-être trop souffert quand j'étais enfant pour revenir à la surface. Et en même temps, j'étais pas consciente de ça parce que je pensais que j'avais déjà beaucoup travaillé sur le sujet. En tout cas, j'ai tellement appris avec cette méditation et ces méthodes de reconnexion avec l'enfant intérieur que ce week-end, je vais partager ça autour d'un atelier de yoga et de méditation pour permettre à chacune de se connecter à la petite fille qu'elle a été. Je dis à chacune parce que dans cet atelier-là précisément, j'ai que des femmes inscrites.
Mais je crois que l'épisode sera diffusé après cet atelier.
Ah oui.
Mais tu vas en faire d'autres, j'imagine.
Je fais régulièrement des ateliers, absolument.
Alors, j'ai lu ton livre pour préparer cet épisode. J'ai eu l'impression d'assister à la métamorphose d'un papillon. La chrysalide est sortie de son cocon pour déployer ses ailes. C'est exactement comme ça que je te vois. Peux-tu rappeler aux auditeurs ta vie d'avant ?
Bah, moi, j'étais journaliste. Ça se passait plutôt bien. J'ai eu la chance de travailler pour un magazine de mode ultra prestigieux, comme tu le disais dans ton introduction, pour Vogue, pendant 8 ans.
Journaliste beauté.
Oui, j'étais rédactrice beauté, donc je travaillais pour la rubrique beauté, sous la direction d'autres personnes, et j'ai été en charge des actualités parfums assez rapidement. Je me suis formée à l'olfaction en faisant une formation dans une école de parfumerie, et j'ai adoré écrire sur ces sujets pendant un temps, et puis progressivement, j'ai commencé à m'ennuyer sans vraiment comprendre pour quelles raisons. Je me disais que je devais être insatisfaite parce que ça faisait rêver tellement mon entourage, ou en tout cas les gens, quand je disais que je travaillais à Vogue, j'avais l'impression d'avoir atteint le nirvana pour eux. Mais pourtant, moi, j'étais pas totalement bien dans ma peau. En particulier, dans une presse féminine où je participais à sans arrêt focaliser sur tout ce qui pouvait nous permettre de nous rendre belles, alors que moi-même, j'avais un rapport à ma beauté qui était quand même assez compliqué, vu que je me trouvais pas du tout jolie.
Mais t'es très dure avec toi, hein, dans le livre. Cette période,
À cette époque-là, j'étais très dure avec moi, oui.
Ne te supportais pas, en fait.
Il y avait des choses que j'aimais bien chez moi, mais elles étaient... je choisissais, c'est comme si j'avais pu choisir quelques centimètres carrés de mon visage, j'aimais bien mes oreilles, voilà.
Ah, c'est donc... la première fois qu'on me dit ça. J'aime mes oreilles.
Parce qu'elles sont toutes petites. Je me trouvais pas immonde physiquement, c'était pas le souci, c'était juste que...
Tu ne t'aimais pas.
Je ne m'aimais pas physiquement et je me disais, ah là là, si j'avais 2, 5, 10 kilos de moins, je serais tellement mieux. Et puis, je m'imaginais toujours que il y aurait mieux à un moment. Donc, voilà, j'étais dans un univers où les filles étaient toutes... Enfin, moi, je trouvais très jolies, selon les critères, en fait, que j'avais déterminés comme beaux. Et je me comparais beaucoup aux femmes qui évoluaient dans cet univers. Et je me disais que je rentrais pas dans les cases, même au niveau du style.
Pourquoi ? Parce que pour toi, il fallait qu'elle soit, il fallait être super grande.
Parce que beaucoup de ces journalistes, elles étaient très minces, très fines, elles étaient très bien habillées, avec des vêtements de marque dont j'avais pas vraiment les moyens. Je me demandais d'ailleurs comment c'était possible tout ça. J'étais assez naïve. Donc j'avais toujours l'impression que peut-être avec une paire de chaussures, quelques kilos en moins, une bonne veste, je finirais par faire partie de cette tribu de femmes sur lesquelles...
C'est intéressant le mot voilà. Tribu.
Oui, parce que y a quand même, elles avaient certains critères de beauté et d'apparence où on pouvait les relier entre elles. Beaucoup d'élégance, beaucoup de minceur. Donc moi, j'avais envie de faire partie de ce groupe. Il se trouve que je me battais tellement avec mon corps en me privant, puis en relâchant la pression.
Tu faisais beaucoup de régimes aussi.
Je faisais beaucoup de régimes et j'avais compris que les régimes les plus restrictifs, c'était pas les meilleurs pour ma santé. Donc je faisais des choses qui étaient moins restrictives que ce que j'ai pu tenter quand j'avais une vingtaine d'années, qui était frappadingue avec les trucs protéinés et tout ça. Donc ça, je faisais plus ça. Mais malgré le fait que je sois plus mesurée, je continuais à avoir des phases où je faisais très attention, où j'étais sous contrôle. Et comme autour de moi, il y avait énormément de femmes qui étaient tout le temps sous contrôle, y compris des femmes minces qui n'avaient pas visiblement de problème de poids, mais qui étaient tout le temps en train de contrôler si je mange ça ce midi, ce soir, il va falloir que je mange juste une soupe, et qui se privaient en fait à plusieurs... moment de la journée ou qui se privaient de repas.
En fait, elles n'écoutent pas leur corps.
Alors, elles n'étaient pas du tout connectées, en tout cas, pas toutes, puisque j'ai des copines minces autour de moi qui n'ont pas ces problèmes. Mais j'avais autour de moi, surtout, mais parce qu'on attire des miroirs de nous-mêmes. Donc, j'avais énormément d'amis et dans mon milieu professionnel, je voyais beaucoup de femmes qui étaient en lutte permanente avec des tas de tentatives différentes pour rester très mince. Soit pour rester très mince, soit pour perdre des kilos que je ne voyais pas où elles pourraient les perdre. Enfin, elles étaient déjà
perdre
parfaites.
Perdre un os, quoi. Mais...
Voilà. Donc, et puis après, il y a des femmes qui sont naturellement très fines et qui sont pas forcément... toi, par exemple, je suis sûre que tu luttes pas avec ton poids, mais voilà. J'étais très envieuse de celles qui ne luttaient pas. Je me disais, ça ne m'arrivera jamais. Moi, je suis née avec la gourmandise tellement grande, j'aurais toujours cette sensation de manque. Bon, ça, c'était une croyance très limitante et qui se révèle complètement fausse aujourd'hui.
Et tu ne te supportais même pas en photo ?
Oui, alors ça dépendait des fois, parce qu'il fallait que, si la photo, elle était anglaise, je savais très bien faire en sorte d'avoir l'air plus mince sur des photos. Je savais très bien comment me tenir, utiliser les bons filtres, ou bien, voilà, me faire photographier en plan américain pour pas qu'on voit le reste de mon corps. Ou de, j'avais plein de tics de mettre mes bras en arrière pour pas qu'on voit la chair de mes bras. Donc j'avais quand même travaillé des poses devant le miroir pour pas qu'on voit trop à quoi je ressemblais. Dans des photos de groupe, je me mettais toujours derrière avec juste la tête qui ressortait. Donc ça, ça trahissait quand même beaucoup de mes estimes de moi.
Moi qui te suis depuis très longtemps sur Instagram, j'ai vu cette métamorphose. C'est pour ça que j'aime bien, j'espère que ça te convient, cet aspect de chrysalide qui se transforme en papillon. C'est vraiment ça, parce qu'on l'a vu sur ton Instagram. Tu ne te montrais pas, et puis après, tu as commencé avec le yoga à faire des selfies devant des miroirs en tenue de yoga.
Ouais, ouais.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le yoga t'a aidé à opérer cette réconciliation? C'est en 2016, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, en 2016, vraiment un moment où j'avais connu des périodes de dépression et des périodes beaucoup plus difficiles qu'en 2016, que j'avais guéri, ou en tout cas que j'avais traversé avec l'aide de thérapies comme la psychanalyse, le MDR, tout un tas de...
Oui, t'as testé beaucoup de choses.
J'ai testé beaucoup de choses dès l'âge de 16 ans et j'ai pas cessé en fait de travailler sur moi parce que je voulais aller mieux. Mais bon, il me semblait, par exemple en 2015, moi j'avais l'impression que les choses allaient plutôt mieux pour moi. Jusqu'aux attentats de novembre 2015, qui ont mis à jour un vrai désarroi et une insécurité intérieure profonde. Je me suis aperçue, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais que finalement, le sentiment de sécurité que j'avais dépendait beaucoup de l'extérieur, de mon confort matériel, de l'amour que je recevais de mon mari, etc. Et là, d'un seul coup, ces événements, pourtant qui ne m'ont pas touchée personnellement, qui ont touché des amis à moi, mais pas moi, j'ai perdu personne pendant ces événements. Je me suis mise à avoir très peur pour mon avenir et je me suis mise à me dire qu'en fait, la vie n'avait plus aucun sens. C'était quelque chose que je répétais beaucoup, en fait, dans cette période. Et alors que j'avais réussi à stabiliser un poids qui me convenait, je me suis mise à manger de manière vorace et j'avais pas connu ces périodes vraiment
C'est la boulimie.
De boulimie. Alors, je me faisais pas vomir, mais vraiment, on appelle ça le binge eating, c'est-à-dire que on mange beaucoup trop. Quel que soit l'aliment, on mange pas forcément que des cochonneries. On peut très bien faire du binge eating avec des haricots verts, mais on en mange tellement qu'en fait on est mal tout le temps en sortant de table.
T'avais besoin de te remplir.
Oui,
en fait,
et je me sentais jamais rassasiée. Mmh. Donc je voyais bien qu'il y avait un souci, mais j'étais dans le déni. Je me disais ouais, c'est pas grave, ça va s'arranger. Et puis en 2016, j'ai eu un soir une prise de conscience que je n'avais plus aucune photo de moi justement. Et que je n'avais plus dans mon téléphone que des photos de nourriture, d'aliments, de buffets gargantuesques que j'avais prises pendant les conférences de presse où j'allais. Et je me suis dit, il y a quand même un souci. Qu'est-ce que c'est que cette obsession quand même pour l'alimentation? J'avais évidemment déjà beaucoup questionné ça en thérapie. Mais je me disais, bon, voilà, en fait, je m'en sortirai jamais de ce truc-là. Et je suis allée de mal en pis entre le printemps 2016 et la fin de l'été, parce que c'était pas tout d'avoir dit je vais pas bien. En fait, il fallait quand même que j'aille encore plus mal pour que je me relève. Un peu comme quand on touche le fond de la piscine, hein, c'était vraiment ça. Et là, j'ai une amie qui m'a bassinée pendant des mois pour que j'aille tester du yoga. Et moi, j'allais de temps en temps faire un cours de yoga, mais j'avais pas une passion pour ça. C'était un endroit où je me comparais beaucoup.
Toujours dans la comparaison.
Ouais, j'étais tout le temps dans la comparaison. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais à l'époque, je trouvais que les filles, elles étaient athlétiques, elles étaient beaucoup plus minces que moi,
souples,
qu'elles savaient faire le grand écart, alors que moi, j'arrivais même pas à toucher mes pieds au sol. Enfin, et puis elles, je trouvais qu'elles étaient très bien habillées, alors que moi, j'avais un vieux survêt pourri et un t-shirt trop large. Donc, quand je faisais chien tête en bas, j'avais mon t-shirt qui dégringolait et on voyait mon soutif. J'avais pas les brassières à la mode. Enfin, je me sentais gauche et du coup, à chaque fois que j'allais dans un cours de yoga, ça venait me renvoyer cette image de pas être à ma place. Et puis quand on me disait méditer, je comprenais pas de quoi il s'agissait. Même si je faisais de la méditation guidée de temps en temps avec une application téléphonique, Moi, rester sur un tapis longtemps, ça me faisait mal au dos. Je me disais, mais
mal
comment
aux fesses aussi.
Mal aux fesses. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Je me disais, je sais pas. Bon. Et cette amie, elle m'a dit, mais tu devrais vraiment tester mon yoga. Tu vois, c'est génial. En plus, la prof, elle est trop belle. Et elle est rayonnante. On chante des mantras. Alors là, vraiment, je me suis dit, bah, c'est pas pour me convaincre. J'ai pas du tout envie d'aller chanter des mantras avec des femmes que je connais pas. Et j'étais hyper fermée à tout ce qui pouvait être spirituel. Pour moi, j'avais toujours appris à ne pas croire en Dieu, dans une famille où on prônait plutôt l'athéisme et de culture où il y avait deux parents de deux cultures tout à fait différentes. Mais c'est les valeurs de l'athéisme qui avaient prôné sur le reste. Donc, pour moi, j'avais pas de... Voilà, je croyais pas dans les mystères. J'étais pas du genre à aller consulter des voyantes ou des astrologues. J'avais beaucoup de mépris, en fait, pour tout ça.
Un mépris.
Ouais. Je me disais qu'en fait, il y avait des gens qui croyaient encore au Père Noël et que le Père Noël, ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'être de lumière et que tout ça, c'est des gens qui se racontent des histoires parce qu'ils ne supportent pas l'idée qu'ils sont mortels. Voilà comment je voyais les choses. Donc, elle m'a conduit quand même à aller tester ce cours, cette amie, parce que je l'aime bien et que je la trouvais très rationnelle. C'est-à-dire qu'elle a 4 enfants, elle les élève divinement bien, et c'est une fille qui a les pieds sur terre. Donc je me disais, bon, pourquoi pas. Et puis par politesse, je trouvais ça sympa d'y aller.
De
lui faire plaisir, parce qu'elle avait l'air tellement enthousiasmée par sa découverte que bon. Donc j'y suis allée, et puis ben, là, ça a été un choc.
Donc c'était un cours de yoga Kundalini.
Ouais, exactement. Avec... Donc bon, moi je savais pas très bien ce que ça voulait dire Kunda machin. On aurait pu me dire yoga Pokémon, ça m'aurait fait le même effet. Mais effectivement, pendant 1h30, le fait d'abord que ce soit un yoga qui est assez accessible, qui soit accessible à des corpulences différentes. Dans mes cours, par exemple, puisqu'aujourd'hui j'enseigne, j'ai des femmes qui sont très fine, mais j'ai aussi des femmes qui sont qui peuvent être en surpoids et ça pose absolument aucun problème. C'est pas un yoga acrobatique.
Et puis on pratique les yeux fermés. C'est ça qui est important.
Voilà, on pratique les yeux fermés. Voilà.
Absolument. J'en ai fait du Kundalini.
Bah oui, je sais. Et donc en fait, oui, c'est un yoga qu'on pratique les yeux fermés et du coup
on ne peut pas juger les autres.
Même si on a envie, de temps en temps, je vois bien, hein, on a envie d'ouvrir les yeux et de regarder. Attendez, mais là c'est dur au niveau des bras. Les autres, elles en sont où? Ben, en fait, l'autre, il a rien à nous apprendre sur notre développement personnel. Donc, lui, c'est lui, moi, c'est moi, mais moi, j'avance avec ce que je découvre sur moi-même à travers mon corps. Mmh. Et de savoir que celui d'à côté ou celle d'à côté, elle sait mettre sa tête jusque sur ses genoux quand elle se baisse, alors que nous, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Donc, ça m'a appris beaucoup c'est marrant parce qu'on se dit toujours que les gens qui font toutes ces techniques spirituelles sont très narcissiques et s'occupent que de leur nombril. Et finalement, moi, j'ai été beaucoup plus narcissique avant que je ne le suis aujourd'hui. J'étais convaincue que tout le monde me regardait dans un cours, mais alors qu'en fait, chacun est occupé par juste son corps et sa pratique. Donc ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus humble dans mon rapport à mon corps et de me mettre progressivement à l'aimer. Donc ça a été évidemment étape par étape, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ce que j'ai apprécié dans ce premier cours, c'est que c'était joyeux. C'était extrêmement joyeux.
T'es sortie avec le sourire.
J'avais la pêche en sortant, mais je me disais c'est génial, pendant 1h30, j'ai pensé à rien, mais depuis quand ça m'était arrivé de penser à rien, à part la nuit, et encore, j'imagine que je rêvais et que du coup, j'avais quand même le mental qui continuait à travailler. Mais je me suis dit, mais quel repos pour moi d'avoir été pleinement présente.
D'avoir fait du sport aussi, accessoirement.
D'avoir fait un exercice physique qui m'a quand même bien défoulée et de me sentir détendue, quoi, vraiment.
Alors, j'imagine que cette réconciliation avec ton corps et ton image, parce que les deux vont de pair avec toi, ça n'a pas été sans impact sur ta manière de te vêtir, j'imagine.
Oui. Alors il y a plein de choses là-dedans. La première chose, c'est que le fait de me réconcilier avec mon corps, de me trouver à nouveau jolie, a fait que je me suis à nouveau autorisée à porter ce que j'avais envie de porter.
C'est-à-dire ?
En fait, c'était assez simple. Mais moi, on me croise dans la rue. Bon, là, aujourd'hui, tu vois, je porte un legging, j'ai un sweatshirt, je sors d'un cours de yoga que je viens de donner. Mais si tu me croises, très souvent, je suis en jean avec un t-shirt rentré dans mon jean.
Une veste noire.
Une veste noire ou une veste de un blazer masculin. On me croise aussi beaucoup avec des grands kawaii, des énormes parkas. Alors, il y a un aspect pratique, évidemment, dans mon vêtement aujourd'hui, parce que j'ai besoin de pouvoir être en mouvement permanent. Mais porter un jean avec un t-shirt, c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire.
Tu avais même 3 tailles de vêtements différents.
Ouais, ça, en fait, c'est fréquent chez beaucoup de femmes. J'allais du 38, j'avais 38, 40 et 42 dans mon armoire, sachant que quand j'ai pris conscience que j'avais vraiment abusé de la nourriture, le 42 était déjà beaucoup trop petit pour moi. Mais oui, j'oscillais toujours en me disant le 38, c'est mon Graal, voilà, je vais redescendre. Aujourd'hui, je me questionne jamais sur la taille que je vais prendre dans un magasin. Si je rentre dans un magasin de temps en temps, il y a des magasins où je fais du 36 et d'autres où je fais du 40.
En plus, ça ne veut rien dire.
Ouais, ça veut rien dire. Et alors vraiment, je me suis complètement décomplexée par rapport à ça, mais pendant longtemps, c'était pas le cas. Mais ça m'a permis de m'acheter des vêtements que j'avais envie de porter, de me dire, tiens, cette robe, elle me plaît. On a vu mon style évoluer. Simplement parce que je n'étais pas honteuse de moi-même. Donc, quand on peut ouvrir sa cage thoracique, redresser sa colonne vertébrale et se montrer au monde tel qu'on est, du coup, on choisit les vêtements qui nous conviennent, quoi.
Et là, tu parlais de jean t-shirt. Est-ce que tu as eu envie de porter en premier ? Est-ce que tu as le souvenir d'un vêtement que tu aurais acheté ? Ou alors une robe ou...
Ouais, je me souviens très bien d'un vêtement en 2017, je crois, où je pratiquais beaucoup. Mon corps s'était vraiment transformé. Je suis toujours assez musclée. Et je me trouvais jolie. J'étais en vacances en Espagne, sur une île des Baléares. Et puis je venais de recevoir une espèce de combinaison, vraiment toute simple, quoi, une espèce de combinaison, mais qui était assez ajustée, avec une fermeture éclair, et du coup toute la première partie, c'est une combinaison à bretelles, mais toute la première partie du corps était assez menue, et ensuite ça partait dans un truc un peu plus large. Et je l'avais acheté sur Internet, ce que je ne faisais jamais avant, parce que forcément, quand on oscille entre 3 tailles tout le temps, on a du mal à savoir quelle va être la bonne. Et donc là, je l'avais acheté par Internet et ça m'allait parfaitement. Vraiment, c'était pile ma taille et je me trouvais jolie dedans. Et en plus, c'est une combinaison que je peux porter sans soutien-gorge parce qu'elle est assez galbante en haut. Et je me regardais, je me disais, ça y est, quoi, je me trouve bien, je me trouve jolie dans le miroir, oui. Je me sentais juste vivante, quoi, pleinement de toutes mes cellules, de la tête aux pieds. J'étais pas en train de regarder le miroir et de me dire, il faudrait changer ci ou ça, mais je serais quand même mieux si j'avais moins de cuisses ou des genoux plus dessinés. Je me trouvais bien comme j'étais ce jour-là, donc oui, ça, je m'en souviens.
Et est-ce que tu t'es sentie plus féminine ? Ou tu t'es toujours sentie féminine ?
Je crois que j'ai toujours quand même cultivé pas mal de féminité dans ma façon de m'habiller, mais avec des phases où je me cachais. C'est quand même terrible quand on se lève le matin et qu'on a plein d'envies de mode, par exemple, parce que moi, j'aime bien le vêtement, et qu'on se dit, ouais, mais ça, je peux pas le porter, et puis ça m'ira pas, et puis ça, j'ai des trop grosses cuisses, ou ça, j'ai un trop gros cul. J'avais des mots tellement durs, en fait, pour moi, le matin. Et je crois que... D'après les témoignages que je reçois des femmes qui lisent ce livre, c'est terrible parce qu'on est vraiment très très nombreuses à avoir partagé ou à partager encore en fait ce sentiment de pas pouvoir s'habiller comme on veut, de se dire j'ai les seins trop plats pour pouvoir porter cette robe là, ou bien j'ai des trop gros seins pour avoir ce décolleté.
Il y a peut-être une problématique aussi, c'est qu'on vit dans une société de l'image et que les femmes se mettent la pression à cause de ces images parfaites qui sont souvent retouchées
dans
les magazines, sur Instagram.
Oui, mais j'ai l'impression que même quand on était moins là-dedans, moi, je suis née dans les années 70, et évidemment que l'image était déjà très présente, mais j'ai l'impression que même à l'époque où les modèles qu'on regardait dans les magazines n'étaient pas aussi fines qu'aujourd'hui, elles étaient quand même tellement parfaites. Dans les années 90, toutes les superwomen, comme, enfin, les supermodèles comme Cindy Crawford, Naomi Campbell, on nous raconte aujourd'hui qu'elles avaient des formes, elles étaient juste plus que parfaites, elles étaient magnifiques, mais c'était difficile de se comparer à ces femmes qui étaient, qu'on croisait pas dans la rue tous les jours, quoi. Donc, je crois que, en fait, si on se met à reprocher à la société autour de dans laquelle on vit et les complexes qu'on peut avoir, on se trompe de bataille. Je crois que le plus important, c'est de reconnaître en fait ces complexes comme et de se les réapproprier, de se dire c'est pas de la faute de quelqu'un qui m'a toujours dit t'es moche, tes cuisses sont pas jolies, etc. Mais de se dire pourquoi est-ce que j'accepte de me laisser envahir par cette pensée qui n'est pas la mienne ? Donc ça, c'est le travail de la méditation et le travail sur le tapis qui va nous permettre de commencer à nous réconcilier. Mais c'est long et c'est pas, ça prend pas 2 secondes. Mais en tout cas, c'est possible. Et tu me parlais tout à l'heure de mon rapport aux vêtements. Il a aussi beaucoup évolué. La féminité et tout ça. Il a aussi beaucoup évolué par rapport à mes besoins. Avant, j'avais besoin de j'avais tellement la peur du manque et je manquais tellement d'amour pour moi-même que je remplissais le vide par la nourriture, mais aussi par le fait d'avoir. Tu vois, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais une collection de chaussures, c'était dingue. Et moi, j'ai travaillé dans un concept store qui s'appelle Colette. Qui a disparu depuis, mais qui était vraiment...
J'étais dans le cœur de la mode à Paris.
Ah bah vraiment, j'ai vraiment commencé en fait à ma vie professionnelle dans ce concept store où il y avait les marques les plus pointues et je collectionnais les souliers. Alors j'en avais probablement moins que d'autres vendeuses, mais j'en avais quand même pas mal. Et je me souviens, je les étalais le soir, je les regardais, je les sortais toutes des boîtes. C'était pas très grand chez moi puisque je sais pas, j'habitais déjà dans le 9e, mais dans un plus petit appartement que celui que j'occupe aujourd'hui. Mais voilà, mes chaussures, elles avaient... Et je me disais, à la fois, elles me plaisaient comme une enfant qui regarde ses premiers souliers vernis. Mais il y avait aussi un truc du genre, si j'ai tout ça, alors j'ai de la valeur moi aussi. Mmh. Hein? Et comme je me suis libérée, en fait, de ce besoin de compenser... à la fois à travers la nourriture, mais aussi à travers le fait d'avoir, j'ai beaucoup moins de besoins qu'avant en termes de vêtements. Par exemple, là, on est à la fin du mois de septembre et je me suis rien acheté depuis de longs mois, en fait.
Mais justement, parce que ma question, c'était quel est ton dernier achat ?
Je sais pas à quand ça remonte, mon dernier achat, mais c'était il y a longtemps. Je dois quand même admettre une chose et avouer quelque chose qui est quand même important quand on pour les auditeurs et les auditrices qui m'écoutent, c'est que je suis ce qu'on appelle une influenceuse, c'est-à-dire que sur Instagram, j'ai une grande communauté qui me suit, donc il m'arrive de recevoir des cadeaux de marques. C'est assez rare parce que moi, je parle pas vraiment de mode, donc mais ça peut arriver que parce qu'une marque me trouve sympathique, m'envoie un vêtement, on me demande rien en retour, mais ça peut arriver. Donc je suis pas je suis loin d'être envahie de cadeaux de vêtements, mais il y a quelques mois j'ai reçu un vêtement qui m'a fait vraiment super plaisir, qui est une grande parka que je porte beaucoup. J'étais très touchée, je vais pas dire le nom de la marque parce que j'ai pas envie, c'était un geste qui était plutôt intime, comme une déclaration de cœur pour moi, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et je n'avais pas formulé le souhait d'avoir cette parka, mais j'étais super contente de la recevoir. Mais non, j'ai plus beaucoup
T'as plus d'envie. Et ton prochain achat ?
De quoi je pourrais avoir besoin ? Oh, je crois que si, il va falloir quand même que j'investisse dans une paire de chaussures qui soit à la fois confortable parce que je cours tout le temps d'une salle de yoga à l'autre et qui soit un peu plus élégante que la paire de Birkenstock que j'ai usée et que je porte encore.
On voit beaucoup sur tes photos.
Oui, parce que non, mais enfin, je pense que ça doit être un peu. On parlait de féminité tout à l'heure. Je suis pas sûre que ce soit les souliers les plus féminins. Mais dans les endroits où je vais pratiquer, à droite, à gauche, c'est quand même très, très pratique. Donc là, aujourd'hui, j'ai une grosse paire de baskets. Je suis en tenue de combat.
Non, quel est ton style aujourd'hui? Hors tenue de combat de yoga.
Je crois que j'aurais bien du mal à le définir. Moi, j'aime bien de temps en temps me sentir connectée à ma féminité. J'aime bien porter des robes. Ça me fait plaisir de voir ce que le vêtement fait sur nous aussi.
Des talons aussi, tu penses?
Des talons.
Alors que t'es très grande.
Ah ouais, j'adore porter des talons.
Toi, sur des talons, tu es plus grande que moi. Hein. Tu mesures 1m80.
Oui, avec des talons, je suis 1m80. Mais comme j'ai un mari qui fait 1m93, je me sens pas complexée par ma taille. J'adore porter des talons. Mais j'ai des talons assez confortables. En général, c'est des boots ou bien des escarpins que j'ai bien portés pendant longtemps. Donc voilà. Je peux être comme ça, voilà, où on va me croiser, on va me dire « Ah, mais qu'est-ce que t'es élégante !» Et puis le lendemain, on va me voir beaucoup plus simplement avec toute une collection de t-shirts. J'ai une collection de t-shirts qui est vraiment grande, mais que voilà, qui est toujours la même. Et moi, je...
En fait, tu te prends pas la tête.
Non, je me prends pas du tout la tête avec les vêtements. Faut que ce soit simple. Je me suis tellement pris la tête avant d'aller bosser. Tellement pris la tête pour me dire, est-ce que ça, c'est les bonnes chaussures? Est-ce que j'ai le bon sac? Comment est-ce qu'on va se dire? Voilà. Non, je veux plus jamais vivre ça.
Donc, justement, t'as dit une chose, là. Qu'est-ce qu'on va dire?
Oui, parce que je suis plus pressurisée par le regard de l'autre. Je fais comme j'ai envie, moi. Et les vêtements, ils ont une énergie, ils ont une vibration. C'est pas une vue de l'esprit. Je me souviens très bien que Marie Kondo, dans son livre, quand elle parle de faire du tri des vêtements, elle demande aux gens de les toucher et de se dire, est-ce que ce vêtement me donne encore de la joie? Alors, on s'est dit, c'est complètement ridicule. N'empêche que moi, je l'ai appliqué, cette méthode, et c'est génial.
Toutes tes chaussures de chez Colette?
Il y en a beaucoup qui sont parties. Il y en a beaucoup qui correspondaient plus.
Elle te donnait plus de joie.
Voilà, elle me donnait plus de joie. Et puis, c'est surtout que, alors, il y a ma fille, elle compte bien. Elle me disait très petite.
Il y a un héritage.
Très petite, mais quand tu seras morte, tu me donneras toutes tes chaussures. Donc voilà, je pense qu'elle n'aura pas besoin d'attendre que je sois morte pour que ce soit le cas. Et c'est d'ailleurs bien de son âge, puisqu'elle est dans la préadolescence, elle a 12 ans, de rêver, etc. Finalement, en fait, la personne avec laquelle je continue à faire les boutiques aujourd'hui, c'est ma fille, puisqu'elle est encore en demande. Moi, il y a aussi une chose qui fait que j'ai moins de besoins, c'est que j'ai vraiment développé beaucoup de conscience écologique.
J'allais t'en parler.
Et du coup, je suis pas très à l'aise en fait avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau alors que mon placard est plein, ou bien que je peux me faire prêter une tenue par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe un soir pour une fête. Et ben, je peux me faire prêter quelque chose, on peut s'échanger des trucs. Moi, j'adore vintage, je trouve que c'est génial de pouvoir donner une seconde vie. Pendant très longtemps, j'ai donné des vêtements, et puis je me suis aperçue que des fois, ces vêtements, on en donne, mais ils finissent par être brûlés
tu les donnais dans des associations?
Oui,
dans les bennes,
exactement. Et en fait, j'ai appris que la gestion de ces vêtements, c'est finalement beaucoup plus difficile qu'on imagine. Il y a trop de vêtements dans les associations. Il n'y a pas assez de chaussettes neuves. Il n'y a pas assez de sous-vêtements neufs. En fait, c'est ça dont les associations ont souvent besoin. Et on donne des trucs qui sont usés. Donc, les gens qui sont dans le besoin, ils n'ont pas envie d'avoir des trucs tout pourris, en fait, pour vivre. Nos vêtements troués, je crois qu'on peut en faire des chiffons, mais du coup, pour nettoyer sa maison. Et je me suis dit, mais on peut pas continuer comme ça, quoi. Donc, moi, je trouve que quand on vend sur Vinted, même si on vend un t-shirt 2 €, on a conscience de la valeur qu'il a. Et moi, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais je trouve que
c'est
symbolique. Et en fait, comme on l'a acheté, la personne qui le récupère, elle a envie de le porter et elle a envie d'en faire quelque chose. Bon, moi, j'ai beaucoup vendu de vêtements de ma fille en particulier, parce que en fait, les enfants grandissent si vite que on se retrouve avec une tonne de choses. Et puis, je peux pas imposer cette conscience écologique à ma fille, parce que ce serait source de trop de conflits. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Donc il y a plein de marques qu'elle adore qui sont des marques qui pour moi ne correspondent absolument pas à mes valeurs. Mais je découvre aussi un monde de l'adolescence que je... Enfin, c'est complètement
extrêmement
nouveau. Dur. Ouais, c'est dur. Et puis, bon, après, en fait, ça n'a pas changé par rapport aux années où moi, j'étais adolescente. Moi, quand j'étais adolescente, je rêvais d'avoir un gilet à pression Agnès B. Je rêvais d'avoir des Clarks, un très joli caban ou une canadienne. Il y avait plein de marques qui me faisaient rêver auxquelles je n'avais pas accès parce que... chez moi, on avait décidé que les marques et les prix à cet âge-là, c'était pas possible. Mmh. Et j'en voulais beaucoup à ma mère, mais finalement, je trouve que elle m'a quand même enseigné 2-3 trucs qui étaient pas si mal là-dedans. Mais bon, avec ma fille, je ne dis pas oui à tout, à tout, loin de là. Et j'essaye de lui montrer que Vinted, ça peut être aussi une solution. D'ailleurs, elle trouve ça génial. Elle en est à vouloir son propre compte. On n'en est pas là parce que voilà, j'ai pas non plus envie qu'elle monte un business. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que cette façon de recycler. On allait aux puces, moi, quand j'étais adolescente. Je passais tous mes week-ends à Saint-Ouen à essayer de trouver des vieux manteaux des années 60. J'étais obsédée par les années 60 et 70. Donc on allait déjà chercher des trucs qui étaient pas trop cher.
C'était, quand tu dis « on », c'était avec tes copines?
Ouais, avec mes copines.
Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez toi?
Pas vraiment, non. J'ai pas cette sensation-là. Non, j'ai pas eu l'impression qu'on m'ait transmis du style, en tout cas, dans ma famille. En revanche, moi, avec mes copines, oui, j'avais toute une bande... En tout cas, j'avais des copines et on aimait bien se looker pour aller au lycée avec des périodes grunge où je me souviens, j'allais aux puces, j'allais chercher des vestes de bûcheron à carreaux, mais je voulais la veste de bûcheron canadienne, je voulais des vêtements de l'armée, mais pas n'importe lesquels. J'aimais bien ça. De toute façon, j'ai pas travaillé dans la mode pendant aussi longtemps.
Surtout chez Colette.
Et chez Colette et ensuite à Vogue, où j'étais quand même très liée au milieu de la mode, sans raison. J'aimais bien le vêtement et je continue à être fascinée par l'élégance de gens que je croise dans la rue, par ces personnes soignées qui arrivent toujours à avoir des chemises blanches impeccables. Moi, je ne sais pas comment ils font parce que je suis toujours froissée. Simplement, l'industrie de la mode telle qu'elle est aujourd'hui me fait plus du tout rêver. Avant, je suivais les Fashion Week avec beaucoup d'attention, je regardais les défilés. J'ai pas de mépris, mais en tout cas, ça fait plus partie de mes centres d'intérêt. Tel que c'est aujourd'hui, moi, je vois toute la débauche d'argent.
Il y a trop
de gaspillage, il y a trop de... Je me dis tout cet argent qu'on pourrait mettre dans d'autres projets, tout en accompagnant quand même les créateurs et à montrer leur création, différemment en tout cas.
C'est peut-être un peu contradictoire aussi quand on voit certains créateurs, là, notamment lors de cette Fashion Week, qui parlent de mode éco-responsable, qu'il faut sauver la planète. Et en même temps, quand on voit que les gens qui assistent à la Fashion Week sont allés, il y a 15 jours, étaient à Milan, à New York, à Londres. Donc
oui,
c'est un peu contradictoire.
En fait, je crois que
aussi.
Nous, on est tous pleins d'incohérences aujourd'hui parce que la société, elle nous pousse dans des directions très différentes. On a conscience qu'aujourd'hui, il y a une urgence écologique et climatique qui est terrible. Et en même temps, on n'a pas forcément les moyens de se dire comment est-ce que je pourrais faire moi pour être en lien avec ces valeurs écolo, alors que je dois prendre ma voiture tous les jours pour aller travailler, alors que je dois quand même acheter des vêtements à mes enfants et que le vêtement conscient et vertueux, il coûte 100 € le sweat et que moi, j'ai que 15 € à mettre dedans, donc je vais l'acheter dans une marque de fast fashion. Moi, je comprends en fait à quel point c'est difficile d'être cohérent tout le temps. Et moi-même, je suis pas un exemple de cohérence. Mais quand on commence à tirer ce fil et qu'on fait des petits pas pour soi, d'abord, moi, je pense que essayer d'avoir un comportement plus vertueux dans la mode, ça commence d'abord par aimer son corps, s'aimer soi. Essayer de donner à son corps le meilleur, parce que l'estime de soi, elle commence là. Donc, de se nourrir peut-être différemment, d'avoir plus de conscience dans notre manière de vivre pour nous-mêmes. Et parce qu'on le fait, on va commencer à mieux traiter les autres et à avoir envie de mieux traiter notre environnement. C'est tout simple. À partir du moment où on se met là-dedans, ben, on va se questionner sur quel système on est en train de soutenir lorsqu'on consomme. Donc, est-ce que je suis en train de soutenir un système qui va dans le sens des valeurs que je soutiens, ou bien est-ce que je suis en train de soutenir un système qui détruit ? Donc moi, je me pose cette question-là à chaque fois que j'achète quelque chose. Parfois, je peux pas faire autrement. Voilà, je sais pas, ça peut m'arriver de me retrouver... j'ai pas de cabas suffisamment grand, on me donne un sac plastique, et puis bah je peux pas faire autrement que comme ça, et je vais pas me fouetter non plus. Il s'agit pas, quand je dois prendre un taxi la nuit...
C'est important que tu le dises, ça.
Oui. Il s'agit pas de se fouetter et de se culpabiliser, parce qu'il y a pas pire poison que de culpabiliser. En revanche, penser qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a pas de, de pouvoir d'action, ce serait vraiment dommage, parce que on a un pouvoir immense. Si d'un seul coup, chacun d'entre nous regarde dans son comportement ce qu'il peut modifier pour être en lien avec la planète, eh ben voilà, ça va déjà faire bouger les choses. Et dans la mode, tu parlais de la Fashion Week tout à l'heure et de ces défilés où on voit à la fois beaucoup de débauches d'argent. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut supprimer la mode ou empêcher les défilés d'exister. Je pense que les gens ont encore besoin de se déplacer professionnellement et que voilà, mais juste de se dire, est-ce que tout est nécessaire ? Est-ce que je peux pas faire moi un petit geste pour réduire mon impact négatif sur l'environnement ? Est-ce que je suis obligée ? Ce qui me gêne plus, tu vois, aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut que j'accepte. Parce que c'est toute l'idée, en fait, dans le yoga, c'est d'accepter tout ce qui est et de ne pas être dans le jugement. Et je vois que j'ai encore des réactions négatives quand, par exemple, je vois des gens qui s'expriment haut et fort pour défendre des valeurs écologiques et qui ensuite, quelques minutes plus tard, vont faire la publicité d'une crème qui n'a absolument aucun engagement écologique, qui prônent des valeurs qui sont tout à fait anti-féministes, parce que d'un seul coup, c'est faire croire aux gens qu'il faudrait avoir un produit pour se sentir belle et sans rides, etc. Donc pour moi, en fait, ça, c'est plus compliqué, parce que l'acceptation de soi, ça peut pas être accompagné de... il vous faut... D'accord, acceptez-vous, mais en même temps, pour vous accepter, ce serait bien que vous achetiez les chaussures que je viens de m'acheter, et ce serait bien que vous achetiez aussi cette crème qui vous permettra de vous sentir vraiment vous-même.
Et de paraître plus jeune.
De paraître plus jeune, ou de paraître plus mince, etc., etc. Donc, je vois bien qu'on n'est pas sortis tous là de cette mouise, qui est qu'on ne s'aime pas suffisamment encore, chacun d'entre nous, et que plus on va arriver à de l'amour de soi... moins on sera dans ces incohérences. Donc, quand je le repère chez quelqu'un, c'est pas que je suis en colère, parce que voilà, mais ça me rend triste, parce que je me dis, cette personne-là, elle s'aime pas suffisamment grand et fort. Elle croit encore que sa valeur, elle est conditionnée à la marque de ses chaussures. Après, quand on trouve quelque chose de beau, que ça nous fait du bien, qu'on le porte longtemps, mais oui, pas de problème.
Il faut savoir aussi se faire plaisir.
Évidemment, et je suis pas dans l'idée qu'il faudrait plus du tout consommer, mais juste de mettre un peu plus de sens et de se dire, je peux, à chaque fois que je prends ma carte bleue, avoir une action sur les systèmes que je veux mettre en avant plutôt que d'autres.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Pour moi, l'élégance, c'est une forme, je dirais, d'apaisement personnel. Quand on voit quelqu'un qui est assez bien dans sa peau et qui est dans un espace de compassion pour les autres, moi, c'est une forme d'élégance que je trouve sublime. L'élégance, c'est savoir accepter l'autre tel qu'il est. C'est des formes de... pas de politesse, pas de mensonge, par exemple.
De fausse bienveillance.
Voilà, de fausse bienveillance et d'embrasser quelqu'un qu'on n'a pas envie d'embrasser. C'est pas ça que je dis, mais c'est plutôt... il y a des gens qui savent vous mettre à l'aise. On n'a pas les codes, et puis d'un seul coup, ils font en sorte que tout est simple, et on a l'impression qu'on fait partie de leur famille depuis toujours. Moi, ça, je crois que c'est l'une des plus grandes élégances, c'est-à-dire de quand vous arrivez dans un endroit, que la personne qui vous accueille, elle vous mette dans cette situation. Pour moi, ça, c'est un vrai cadeau. Après, le style dans la rue, j'y accorde finalement assez peu d'importance.
Pardon, tout à l'heure, tu disais que tu te retournais quand même sur des femmes, enfin, tu te faisais la remarque que cette personne est élégante.
En fait, j'ai passé longtemps, je faisais un truc qui était assez ignoble, qui était que quand j'allais pas bien, je regardais dans la rue les looks, les cheveux, le maquillage, et je m'amusais à relooker mentalement les gens. Tu vois, je me disais, bah, elle, si elle avait cette coupe de cheveux là, ce serait super, mieux. Elle serait mieux. Ah bah, elle, faudrait vraiment changer sa couleur de cheveux, ou bien, non, mais ses talons, c'est pas possible, etc., etc. Donc, tu vois, je faisais ça. Et je me suis aperçue récemment que j'ai tellement changé dans ma façon de voir le monde que je trouve les gens beaux dans la rue. Mais je me surprends à trouver ce que je trouvais laid avant, sublime. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans le métro. Parce que avant je me déplaçais assez peu en métro et aujourd'hui du coup je c'est un moyen de transport qui correspond à mon nouveau budget de prof de yoga mais aussi à ma conscience écologique. Et il y avait cette fille assez jeune qui était noire avec des cheveux nattés vert fluo. Et je pense que il y a quelques années, je l'aurais regardée, je me serais dit quel dommage, elle est si belle, elle est venue se gâcher avec ses cheveux verts. Et donc elle écoutait de la musique, elle avait un look avec une fantaisie incroyable, puis elle dégageait un truc vraiment puissant quoi. Et je la regardais, et je sais pas quel âge elle avait, mais elle devait pas avoir plus de 20 ans quoi. Et je me disais, ils sont trop beaux ces cheveux. Enfin, tu vois cette audace d'être qui elle a envie d'être.
Et d'oser.
Ouais. J'avais envie de venir la voir pour lui dire, vous êtes magnifique. Et puis j'ai pas pu parce qu'en fait le temps que je m'approche d'elle, elle est sortie du métro parce que c'était la fin de sa station. Mais je crois qu'en fait je lui ai tellement dit dans ma tête qu'elle a dû le recevoir parce que vraiment je la trouvais sublime.
Un invité de Chiffon m'avait dit, c'était un homme, il m'avait dit, c'est dommage, dans notre société, on ne fait plus de compliments.
Alors, figure-toi que moi, je fais des compliments aux gens dans la rue, ça m'arrive assez souvent. Mais il y a pas très longtemps, je sors de chez moi et je vois un homme avec un canotier et un costume trois pièces en cire-sucker. Hallucinant, quoi. Je sais pas, on voit personne habillé
oui,
comme
c'est
ça.
Rare, oui.
Et donc, je le vois et je lui dis, oh là là, quelle élégance. Et tu vois, je continue mon chemin. Et je partais prendre un cours de yoga. Et donc, je remonte ma rue au pas de course. Comme moi, je marche tout le temps très rapidement parce que je suis souvent toujours en retard. Et puis, d'un seul coup, j'étais sur le point d'arriver place de Clichy. Et il y a quelqu'un qui me frappe dans le dos et qui me dit « Excusez-moi, Pierre, il était en âge, c'était le mec en costume. »
Il t'avait suivi ?
Il m'avait suivi, il m'avait couru après. Et puis, il me dit « Ah, je veux juste vous dire, des femmes qui me font des compliments, ça n'arrive jamais. Ça m'a tellement émue, ça m'a tellement touchée. » Et là, le mec me sort sa carte de visite.
J'étais sûre.
Et donc, il me dit « Si vous voulez, on prend un café. » J'étais là « Ah ben non !»
C'est bon.
Non, je voulais juste vous dire que je vous trouvais vraiment élégant, mais c'est tout.
Non,
quoi.
Mais là, c'est vrai que maintenant, quand tu fais trop de compliments, ça peut paraître louche
pour certaines
personnes.
Enfin, j'ai eu aucun mal. J'ai eu aucun mal à lui dire non. Et il a très bien compris quand il m'a donné sa carte.
Non, mais un compliment gratuit.
Oui, c'est vrai. Bah, après, ça dépend quelle est l'intention derrière, parce qu'on sent bien qu'il y a des compliments. D'ailleurs, nous, en tant que femmes, il y a des compliments qui nous font pas plaisir dans la rue, qui peuvent être assez libidineux. Et donc, on peut faire vraiment la différence entre une marque d'affection et quelque chose d'ouvert. Et puis, mais moi, voilà, très longtemps, les gens qui s'habillaient de manière excentrique, je les regardais et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut s'habiller comme ça avec un jugement très dur, et parce que moi j'avais peut-être peur de prendre la place qui était la mienne, et je voyais ces gens prendre leur place avec tellement d'excentricité, et moi j'osais pas être cette personne que j'avais envie d'être. Donc je suis beaucoup plus tolérante, en tout cas avec moi-même et du coup avec les autres.
Alors pour finir cette interview, ça l'heure tourne,
ouais.
Tu n'as le droit qu'à une seule réponse.
Oh là !
Si t'étais une couleur.
Je crois que... Alors, en plus, c'est la couleur du t-shirt que je porte sur la couverture de mon livre, mais je dirais rose pâle. J'ai énormément de vêtements rose pâle dans ma garde-robe. J'adore l'énergie du quartz rose, qui est une énergie apaisante. C'est une couleur que je me suis pas permise de porter pendant des années, parce que... Je voulais pas avoir l'air d'une fille trop, je sais pas, d'une fifille. Enfin voilà, il y avait cette idée-là. Mais oui, le rose pâle aujourd'hui, c'est une teinte que je trouve douce, enveloppante. Et en tout cas, c'est avec ça que j'ai envie de vibrer.
Chantal Thomas a dit à ce micro il y a quelques semaines que le rose était la couleur la plus flatteuse pour le teint.
Voilà. Bah, probablement, en tout cas, moi je trouve que c'est très doux quand on porte du rose. Il y a une énergie qui vibre autour de nous qui n'est pas la même. Et les gens sont extrêmement bienveillants. Il faut faire attention avec les couleurs qu'on porte parce que pendant très longtemps, j'ai été habillée en noir tout le temps. Le noir, ça n'absorbe pas que la chaleur. Quand on le laisse au soleil, on voit qu'un vêtement noir devient brûlant. Mais il absorbe aussi tout ce qui est aux alentours. Et en fait, moi qui ai été habillée qu'en noir, voilà, de manière permanente, c'était simple en fait, j'avais pas besoin de réfléchir, je pouvais mettre un haut, un pantalon, toujours noir. J'avais l'impression que
C'était un uniforme aussi.
C'était un uniforme, puis je pensais que ça me mincissait, que je paraissais plus mince, quoi. Donc, bon. Le noir, dans le métro, quand on est entouré de gens qui sont fatigués, qui sont parfois en colère, c'est pas la meilleure des idées. Et c'est marrant parce que les Parisiens, des fois, le soir, ils sont tous en noir. Et donc, on se colle comme ça à nous des tas d'énergies qui sont pas forcément celles dont on a besoin pour se sentir rayonnant. Donc, si on a été en noir toute la journée dans un contexte où les gens ont été très agressifs, par exemple, si on est sur la route toute la journée avec des gens qui nous hurlent dessus, bah, peut-être qu'on peut rentrer chez soi, s'habiller différemment et puis le lendemain mettre d'autres couleurs pour voir ce que ça donne, parce que la couleur, elle fait vibrer d'autres énergies.
Si tu étais une forme de pantalon ?
Je sais pas. Je crois que je serais un pantalon droit.
Slim boyfriend ?
Alors, pas slim. Il y avait un... Je sais pas, on appelait ça des pantalons cigarettes à une époque, tu sais. Oui, je dirais plutôt droit et près du corps, mais pas moulant.
Et cigarette, ça te découvre la cheville.
Oui, moi j'aime bien avoir les chevilles découvertes.
Si tu étais une chaussure.
Oh, ce qui me vient en premier, c'est un escarpin très simple.
Si tu étais une matière.
Je serais du coton recyclé.
C'est la première fois qu'on me la sort. Si tu étais un vêtement.
Ah, oh, je serais un jean.
Si tu étais un sous-vêtement.
Si j'étais un sous-vêtement, je serais probablement une petite culotte blanche.
Ouais, en coton recyclé.
Je sais pas si ce sera un coton recyclé, mais je trouve que les sous-vêtements très simples, il y a quelque chose de très charmant. Voilà.
Maintenant. Si tu étais un accessoire de mode.
Ben, je crois que je serais un sac à main pas trop lourd, pas trop grand et pas trop ostentatoire.
Si tu étais une héroïne.
C'est difficile parce que j'ai pas vraiment d'héroïne, il y a pas vraiment de... Je me suis jamais nourrie d'icônes ou d'images avec lesquelles je me suis construite, donc je peux pas vraiment répondre à cette question.
Un adjectif qui te caractérise.
Je crois que je suis... Peut-être que j'ai pas donné cette impression, mais je crois qu'on dit souvent de moi que je suis assez drôle.
C'est vrai. Merci infiniment, Lily.
Merci à toi.
Satnam.
Satnam.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, H&M, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Et vous pourrez retrouver le livre de Lily chez Marabout.
Si vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des 3 derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Valérie de Saint-Pierre.
J'ai 2 vêtements fétiches que je me suis fait faire chez un tailleur africain à Harlem. Et moi, j'avais une robe que j'ai fait dupliquer dans un super tissu africain. Il ressemble à un tissu japonais. Et dans cette robe, je me sens super bien.
JJ Martin.
I mean, les Parisiennes, they are the chicest women on the planet. Very sophisticated, very polished, obviously.
Chantal Thomas.
J'ai quand même été à une époque très excentrique. Là, maintenant, je suis très sobre. Mais c'était le tutu pour sortir le soir, c'était la mini-jupe au ras des fesses. J'arrivais en crinoline, avec des chapeaux énormes, enfin, j'étais originale. Mais déplacée, non, parce que à la limite, ça me plaisait d'être déplacée.